France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, jusqu'à 13h, les duellistes. Natacha Polony, journaliste éditorialiste, et aujourd'hui David Jayes, essayiste et chef d'entreprise, pour un duel exclusivement consacré à la situation internationale, à cette bascule rapide du monde à laquelle nous assistons médusés. Nous, c'est les Français, nous, c'est les Européens. On évoquera ensemble l'allocution d'Emmanuel Macron, mais aussi le sommet européen de jeudi. Et puis pour le débat, nous recevrons l'un de nos plus grands historiens américains qui consacre un essai puissant et très personnel sur la liberté. Son titre, De la liberté, chez Gallimard. Professeur à Yale, il y distingue la liberté positive de la liberté négative. Et à l'heure où les pourfendeurs de la liberté sont aussi ceux qui prétendent en être les promoteurs, nous aurons bien besoin d'y voir plus clair. Timothy Snyder sera avec nous pour le débat, mais pour l'instant, place au duel.
Le grand face-à-face. Thomas Snegaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et David.
Bonjour.
Bonjour Thomas.
L'actualité internationale écrase totalement l'actualité dans son ensemble. On a donc décidé de concentrer tout le duel à cette bascule du monde. Et pour commencer, on va écouter le président américain Donald Trump. Il a prononcé un grand discours mardi devant le Congrès des États-Unis. Le président américain est revenu sur la guerre en Ukraine et évoqué une lettre que lui a envoyée le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
La lettre dit que l'Ukraine est prête à venir à la table des négociations dès que possible pour se rapprocher du chemin de la paix. Personne ne souhaite plus la paix que les Ukrainiens, écrit-il. Mon équipe et moi sommes disposés à travailler sous la direction du président Trump pour aboutir à une paix durable. Nous sommes reconnaissants de l'aide massive de l'Amérique pour maintenir la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Concernant l'accord sur les terres rares, nous sommes disposés à le signer quand vous le souhaiterez. J'ai vraiment beaucoup apprécié qu'il m'envoie cette lettre. Dans le même temps, nous avons eu des discussions sérieuses avec la Russie et j'ai reçu des signaux forts indiquant qu'ils sont prêts pour la paix. Est-ce que ce ne serait pas merveilleux?
Et parallèlement, l'Amérique a suspendu l'échange de renseignements avec l'Ukraine en évoquant la visite de Zelensky dans le bureau ovale du 28 février dernier. Alors que cherche Trump, qui a aussi montré des signes d'agacement envers la Russie depuis hier soir notamment. Qu'est-ce qu'il cherche alors Donald Trump, Natacha? La paix? Est-ce qu'il cherche à humilier Zelensky? À contenter Vladimir Poutine? C'est quoi votre lecture de tout ça?
Je pense que nous avons déjà parlé ici de l'incertitude provoquée par Donald Trump, de cette stratégie du fou qui permet justement de déstabiliser les adversaires, et nous en avons en permanence des exemples. Je pense que malgré tout, si on se réfère à ce qu'a toujours été la ligne de conduite de Donald Trump, le principe fondamental, c'est celui de l'obtention d'une paix, d'un cessez-le-feu et très rapidement d'une fin des hostilités, tout simplement parce qu'il l'a promis à ses électeurs, parce qu'il a expliqué qu'il se faisait fort d'obtenir cela. Et d'ailleurs, dans cette espèce de bras de fer auquel il se livre, avec une brutalité sans nom, mais vous le disiez, tous azimuts, on voit que si on s'extrait des éléments éruptifs, l'aboutissement, enfin la continuité est dans le fait que petit à petit, il force les uns et les autres à justement s'adapter à son agenda. Zelensky, selon toute vraisemblance, ira à Riyad lundi, c'est en tout cas ce qui est annoncé, c'est-à-dire que Donald Trump, pour l'instant, arrive à forcer l'Ukraine à discuter selon des termes qui ne sont pas ceux que souhaitaient ni l'Ukraine ni les Européens, mais qui plus est, le symbole est fort, à Riyad, c'est-à-dire ailleurs qu'en Europe, alors même que Mohamed Ben Salman a proclamé que finalement l'Europe était finie et que c'est en Arabie Saoudite, dans le Golfe, qu'était la nouvelle Europe, c'est-à-dire le pôle de progrès, le pôle d'avenir. Donc il y a là quelque chose qui, finalement, au-delà des stratégies délirantes, nous montre une efficacité redoutable.
David, est-ce que Zelensky ira à Riyad comme on va à Canossa pour s'humilier, encore une fois, face à Donald Trump, parce qu'il n'a pas de carte en main et que la pression est maximale sur lui et son peuple?
Difficile à dire, mais la suspension de l'aide militaire américaine et du renseignement américain, c'est une catastrophe pour les Ukrainiens. Parce que l'Ukraine, pour soutenir cette guerre face à la Russie, était très largement dépendante des Américains. Trump, c'est d'abord un promoteur immobilier. Donc c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est une négociation de paix, a fortiori une négociation multilatérale avec plusieurs acteurs. C'est quelqu'un qui pense que on va forcer la paix. Ce sont ces termes d'ailleurs, comme on force un deal immobilier à Manhattan. Et c'est très dangereux parce que engager une négociation de paix avec la Russie sans être capable de définir quelles sont les lignes rouges, quelles sont les garanties de sécurité pour l'Ukraine, quel est le rôle qu'on veut assigner aux uns et aux autres, c'est en réalité s'assurer d'une mise en coupe réglée de l'Ukraine dans les prochaines années. Et cette vision transactionnelle qu'a Donald Trump de la politique, à mon avis, fausse beaucoup son analyse parce qu'il a le plus grand respect pour les autocrates. Il est très admiratif, il s'en cache pas, hein, de Xi Jinping, le président chinois. Il est très admiratif de Vladimir Poutine et de son leadership, de ces big tough men, de ces hommes forts qui tiennent leur pays.
Mais ce qui est paradoxal, c'est que pour critiquer Zelensky, il le qualifie d'autocrate.
Oui, alors ça fait partie des contradictions humoristiques de Donald Trump. Mais je pense que derrière ce côté agent immobilier erratique, il y a aussi un raisonnement de l'appareil, on va dire, libertarien et techno-césariste. C'est plus le terme.
Oui,
plus
parce que les néo-conservateurs, voilà, eux, ils sont partis avec armes et bagages chez les démocrates.
Ils ont fait la guerre contre les Russes.
C'est les républicains contre Trump. Mais je veux dire de la nouvelle droite américaine, pardonnez-moi. Et dans ce raisonnement, il y a quand même l'idée que l'adversaire premier, c'est la Chine. Qu'il y a une nouvelle guerre froide entre deux hyperpuissances, les États-Unis et la Chine. Il y a un mouvement de solidarisation de la Russie avec la Chine, à la fois sur le plan bancaire, sur le plan des ressources naturelles, du commerce. Et l'obsession de cette nouvelle droite américaine, c'est de couper le cordon entre la Russie et la Chine. Et donc, l'idée d'aller vite vers une paix en Ukraine, en réalité, c'est pour sortir la Russie de l'orbite chinoise, puisque la Russie ne peut pas soutenir une économie de guerre de cette intensité sans dépendre de la Chine. Et j'ajoute aussi qu'il y a une dimension kleptocratique très forte dans cette nouvelle droite américaine. Il est quand même entouré de barons de la tech qui ont des intérêts très forts dans l'armée. Et parmi les tweets les plus intéressants d'Elon Musk, alors il faut dire qu'il y a une cascade de conneries, mais il y a des tweets très intéressants sur les cycles d'innovation dans la défense. Elon Musk a attaqué ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel en disant Boeing, Lockheed Martin, etc. Ils sont plus du tout capables de répondre aux menaces d'aujourd'hui. Les menaces d'aujourd'hui, c'est des cybermenaces, c'est les drones. Et donc, on voit bien que derrière, son ami Peter Thiel et sa boîte Palantir sont là en embuscade. Et on voit que ces barons de la tech, qui ont petit à petit investi d'autres champs comme l'espace ou l'automobile, veulent maintenant aller dans la défense. Et pourquoi je dis ça? Parce que je suis convaincu que ces barons ont intérêt à faire un deal économique avec la Russie. Parce que c'est un pays qui est richissime à la fois sur le plan énergétique, sur le plan des ressources naturelles, infiniment plus que l'Ukraine. Et donc je pense que derrière aussi cette hâte américaine de conclure la paix, il y a un désir de restaurer un partenariat économique avec la Russie qui assurait pour le coup des dividendes sonnants et trébuchants aux barons de la tech qui entourent Donald Trump.
Et pour le coup, la focalisation sur les minerais, c'est aussi évidemment pour lutter contre l'hégémonie chinoise sur les terres rares. Donc il y a effectivement cette toile de fond entre la Chine et les États-Unis.
Si on élargit la focale, l'obsession américaine pour les matières premières, pour l'approvisionnement en matières premières, dure depuis extrêmement longtemps. Et la focalisation qu'il y a eu, en fait, sur l'Ukraine et sur la Russie est liée à ça, les questions d'énergie et les questions de matières premières. Et au sortir de la guerre froide, en 1991, quand les États-Unis choisissent non pas d'aider Gorbatchev qui appelle à l'aide le G7 en disant « aidez-moi à terminer la perestroïka », il leur demande de l'aide financière. Les Américains refusent. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent que s'ils mettent à genoux l'URSS et s'ils mettent à genoux Gorbatchev, alors le pays s'effondre et le but, ce qu'il y a en ligne de mire, ce sont les matières premières et c'est ce qu'ils cherchent à faire. On en revient toujours à l'affaire Khodorkovsky, c'est-à-dire le moment où Poutine se dit les Américains sont en train d'essayer de prendre Yukos, donc de prendre les matières premières, et là, il passe en mode ultra agressif. Donc oui, il faut toujours regarder d'où vient l'énergie, où sont les terres rares pour comprendre les appétits des uns et des autres.
Et j'ajoute dans les actualités de ces dernières heures et de ces derniers jours que vous savez que les États-Unis menacent de taxes prohibitives sur les navires construits en Chine qui iraient faire escale dans les ports américains pour que on construise aux États-Unis. Et Rodolphe Saadé, le patron de CMA CGM, était venu signer dans le bureau ovale avec Donald Trump un contrat de 20 milliards pour aller produire des bateaux sur le sol américain. On voit que la guerre, elle fait rage, froide ou peut-être tiède, entre la Chine et les États-Unis.
Le grand face-à-face, le duel.
Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. Et notre volonté, nous, c'est d'être une puissance de paix et d'équilibre. Au fond, tout ce que nous faisons, par les choix, y compris d'ailleurs de nos armées, pour éviter la guerre de demain, ce sont des choix de paix. Et donc je pense que le président Poutine devrait revenir à cette vision-là. En tout cas, c'est un contresens historique. Dans la référence, c'est sans doute qu'il fut piqué du fait que nous avons démasqué son jeu. S'il y a un cessez-le-feu, ça n'est pas pour faire la paix durablement. Ce sera pour mieux reprendre la guerre.
Emmanuel Macron qui répond à Vladimir Poutine. C'était à l'issue du sommet européen de Bruxelles jeudi, qui s'est traduit par un engagement d'ailleurs hors du commun de réarmement de l'Europe. Vladimir Poutine qui avait regretté quelques instants avant qu'Emmanuel Macron prenne la parole, qu'il existe, et je le cite, « encore des gens qui veulent retourner au temps de Napoléon en oubliant comment ça s'est terminé ». David, cette relation personnelle autour de la figure de Napoléon entre Poutine et Macron, comment est-ce que vous la comprenez, vous ?
Je pense que c'est Emmanuel Macron qui a raison. Napoléon était un empereur. En tout cas, il s'est fait couronner empereur des Français. Et en 2016, un écolier russe avait demandé à Vladimir Poutine où s'arrêtaient les frontières de la Russie. Et Vladimir Poutine lui avait opposé cette réponse très intéressante. Il avait dit « la Russie n'a pas de frontières ». La Russie, c'est la dynamique inéluctable du peuple russe. Et c'est une très bonne définition de l'impérialisme. C'est-à-dire que l'impérialisme ne se reconnaît pas d'autres frontières que celles qu'il veut bien se donner à l'instant T, au gré de ses conquêtes militaires. Et c'est toute la différence avec les États-nations qui, eux, ont des frontières, qui sont réglées et reconnues par les autres et qui sont fixées dans le droit international. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on sort d'un monde, justement, d'État-nation, d'intégrité territoriale. Le grand principe cher au général de Gaulle, c'était l'intégrité territoriale des nations, pour aller dans un monde où, au fond, c'est la loi du plus fort qui prévaut, les frontières sont mouvantes et les plus forts peuvent, dans une logique de prédation, prendre des morceaux de territoire aux autres. Notez bien que les États-Unis, qui étaient soi-disant les garants de l'ordre international depuis 1945, se comporte aujourd'hui avec Donald Trump de la même manière, puisque Trump parle de transformer le Canada en 51e État américain, de s'approprier le Groenland, de récupérer le canal de Panama. Donc aujourd'hui, on a un comportement et une dérive impérialiste qui est générale. Et je vois pas ce qui empêchera demain le président chinois Xi Jinping d'envahir Taïwan. Donc c'est important que l'Europe, et en particulier la France, reste fermement et de manière intransigeante la garante de ces États-nations qui ont des frontières, parce que c'est ce qui nous permet de vivre paisiblement, et nous sommes en train de perdre cette paix.
Et écoutez, Queen Slobodian, qui était chez nous il y a quelques semaines, il n'y a pas que l'impérialisme politique, c'est aussi l'intérêt économique des géants de la tech que vous évoquiez, David, tout à l'heure, qui est de détruire les États, de multiplier le nombre d'États pour jouer de la concurrence entre ces États. Donc effectivement, on est vraiment à la croisée de ces chemins idéologiques et économiques et politiques. Natacha.
Mais c'est justement pour ça que la réflexion sur ce qu'a été à un moment donné la construction européenne comme effacement des États-nations au nom d'une logique supranationale, mais qui était appuyée en fait sur une idéologie de libre-échange et donc de dérégulation, doit être regardée, disons, avec lucidité. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un moment fondamental où les Européens prennent conscience, enfin, de ce qu'ils sont. Et je vais le dire un petit peu brutalement, enfin, on va peut-être pouvoir sortir de cette espèce de discours lénifiant sur l'Occident pour comprendre qu'il y a une civilisation européenne et des intérêts européens. Ça a été long. Pourquoi ? Parce que les promoteurs de la construction européenne telle qu'elle s'est faite ces dernières années étaient ceux qui étaient totalement imprégné de cette logique occidentaliste et en fait atlantiste, qui ont refusé de voir qu'il y avait une dimension impériale qui se réveillait du côté russe, du côté chinois, du côté américain. Et le rôle des États-nations, c'est justement de prévoir et de protéger. Et ce que l'Europe a encore de sécurité aujourd'hui, elle le doit à des États-nations, la France, la Grande-Bretagne qui est sortie de l'Union européenne. Donc il va falloir reconstruire maintenant. Il va falloir construire et ça implique une dimension extrêmement concrète. Venons-en aux éléments de fond. On entend Ursula von der Leyen annoncer 800 milliards. Très bien, tant mieux, on prend conscience qu'il faut se défendre. Ces 800 milliards, pour l'instant, c'est du flan. 650 milliards sous forme d'autorisation de dette. Nous en avons déjà jusqu'au cou des dettes. La Grèce aussi, l'Italie aussi. Donc, ça risque de ne pas être concret.
Mais sorti des règles du pacte de stabilité et de croissance.
Oui, mais là aussi, je m'en réjouis. Je fais partie des gens qui, depuis 10 ans, disent qu'il faut sortir les dépenses militaires des règles de Maastricht. Pour autant, avons-nous l'argent? Et surtout, à quoi ça va servir? Parce que, deux éléments rapides. Premier point, nous sommes en train de parler de moyen et long terme. Il ne faut pas faire croire aux gens que là, les décisions qui sont prises vont servir à aider les Ukrainiens. Une force militaire, ça prend des années. On en a pour 20 ou 30 ans à construire la sécurité européenne. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si on le fait sans réfléchir aux institutions qui vont reporter cela, c'est-à-dire est-ce que nous faisons une alliance qui reprend l'OTAN sans les États-Unis? Qui est-ce que ça inclut? Si nous ne faisons pas ça, alors cet argent sera arrosé sans véritable cohérence. Et là, nous aurons tout perdu.
Mais juste, Natacha, pour prolonger un peu, c'est-à-dire que vous, qui avez pourfendu largement la construction européenne, vous dites, il faut plus d'intégration sur cette question-là?
J'ai pourfendu cette construction européenne, celle-là.
Mais est-ce qu'il faut plus de fédéralisme sur la question militaire,
alors,
par exemple?
On voit bien qu'il y a là, depuis quelques jours, un discours fédéraliste qui consiste à dire, regardez, c'est le moment où il faut basculer.
Les
on
États-Unis
l'entend
d'Europe.
Chez Raphaël Glucksmann, on l'entend même chez Enrico Letta. Voilà. Or, ceux qui prônent ça sont ceux qui, jusqu'à présent, nous ont vendu une Europe qui n'avait aucune conscience de la nécessité de se défendre. Donc, pour quel but? La question des institutions doit être arrimée à la question des objectifs. Or, j'y reviens, pour l'instant, l'Europe, plus elle va dans le fédéralisme, plus elle est en fait une mise en concurrence des espaces intra-européens et une absence de réflexion sur les intérêts des uns et des autres. C'est pour ça que, justement, on a fait en sorte jusqu'à présent que les questions de défense soient le domaine réservé des États.
David, un mot, vous êtes social-démocrate, hein, c'est pas un gros mot de le dire. Donc vous avez,
ça fait un peu dinosaure, mais c'est pas une insulte.
Mais non, parce que je crois que pour vous c'est même un compliment. Vous avez accompagné cette idée de construction européenne. Est-ce que comment vous entendez les propos de Natacha comme une critique quasiment sur un projet que vous avez défendu largement?
Alors moi je suis un social-démocrate, mais avec une forte coloration chevènementiste quand même. Donc moi je crois aussi dans les
États-Nations. Vous êtes trop jeune en fait.
Je crois que l'Europe n'est jamais aussi forte que quand elle est une confédération de nations. Et on le voit aujourd'hui que nous sommes à l'os. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que l'Europe a des arguments, peut mettre du poids dans la balance? On a une France qui a une base industrielle de défense solide, on a la dissuasion nucléaire, et on a un nucléaire civil qui nous permet de produire de l'énergie décarbonée. Ça, c'est un argument fort. On a une Allemagne qui est un pays avec des finances assez saines et assez solides, donc une forte capacité d'investissement, et qui a une très bonne base industrielle en dehors de la défense. On pourrait parler de la Pologne ou des États scandinaves qui, eux, ont des technologies assez avancées. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, puisqu'on est dans un monde plus transactionnel qu'hier, on peut le déplorer, on peut en rire, mais c'est comme ça, qu'on peut reconstruire cette Europe de la défense en faisant exactement comme on a fait pour Airbus, c'est-à-dire des deals entre États.
Bien sûr. Des coopérations renforcées.
Et c'est pour ça d'ailleurs que l'idée du partage de la dissuasion nucléaire, ça doit être pris avec beaucoup de précautions, mais c'est pas du tout quelque chose, parce que j'ai pas mal de copains souverainistes qui hurlent à cette idée. Moi, ça me choque pas, parce que c'est quelque chose qui se regarde, mais qui se négocie. Les Allemands ont des marges de manœuvre budgétaires, ils ont refusé d'investir constamment pendant 20 ans. Si on devait un jour partager notre parapluie
nucléaire... Il faut faire du transactionnel, faire du Trump.
Alors, c'est pas faire du Trump, mais c'est qu'effectivement, il faut qu'on soit un peu moins abstrait et un peu plus concret. Je vous donne un dernier exemple de ce côté concret qu'il faut avoir. Vous avez aujourd'hui une énorme crise de la science américaine avec Elon Musk et l'administration américaine qui démantèlent des agences de recherche, qui s'attaquent à des laboratoires. Moi, je dis, faisons un grand plan, mais très concret, pour accueillir 5000 chercheurs. Je discutais ce matin avec un chercheur du CEA, Centre d'énergie atomique, qui me disait, on a reçu 70 candidatures américaines la semaine dernière. Eh bien, accueillons-les avec des bons salaires,
un droit dérogatoire, des exonérations, et soyons enfin concrets. L'Europe, elle crève d'être trop abstraite.
Et je crois que le HESS de Romain Huret cherche aussi à faire venir des chercheurs venant notamment aussi d'Argentine, qui connaît aussi une grave crise universitaire.
Bien entendu, et le concret, c'est de comprendre encore une fois que nous avons des atouts différents entre pays, et parfois des intérêts différents. C'est-à-dire pourquoi jusqu'à présent on a échoué sur l'avion du futur, le char du futur, justement parce qu'il y avait une concurrence entre États, parce que l'Allemagne, en gros, a réussi petit à petit à nous affaiblir sur tout le terrestre et aimerait bien affaiblir un petit peu la France sur l'aéronautique, etc. D'où l'importance, je suis d'accord, du transactionnel, c'est-à-dire discussion sur la dissuasion. En échange de quoi les 400 milliards voulus par Frédéric Merz ne sont pas là pour éradiquer les industries aérospatiales françaises, mais au contraire pour coopérer de façon loyale.
Le grand face-à-face. Le duel.
Allez, troisième thème du duel, on revient vraiment en France, dans notre vie politique française. Écoutez, Emmanuel Macron, la guerre est déclarée, au moins dans les esprits. L'Union sacrée, en revanche, c'est pas pour aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon tenait jeudi une conférence de presse.
Vous avez entendu, comme moi, le président de la République, tout tranquillou, avec son air de maréchal de la guerre suprême. Et il nous apprend que les Russes nous menacent. Ah bon ? On ne sait pas où, on ne sait pas comment. Mes amis et camarades, non, la priorité, ce n'est pas la guerre avec la Russie.
Natacha, il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon. Hein. Le RN considère qu'il y a aussi d'autres menaces. François Fillon l'a dit avec ses mots dans Valeurs Actuelles cette semaine. Le centriste Hervé Morin également, le président de la région Normandie. L'Union sacrée, on en est loin et pourtant on en aura quand même bien besoin hein, pour réarmer la France. Non, c'est que des mots. Le président de la République n'a pas la capacité à lever des fonds.
L'Union sacrée n'a jamais consisté à ne pas débattre et ne pas discuter. En revanche, il faut sortir de l'opposition binaire entre ceux qui seraient pour la résistance, la liberté, etc. et ceux qui seraient vendus à l'ennemi ou ce genre de rhétorique qu'on entend. Ça, c'est le degré zéro de la pensée, me semble-t-il. L'enjeu, c'est de se demander, en effet, quels sont les intérêts de la France, comment on va rassembler la nation autour de ses intérêts. Il y a une nécessité de se réarmer et il y a une nécessité de produire pour se réarmer. Tout le problème, c'est, tout le risque, c'est si on dit aux citoyens, en gros, c'est la guerre, donc on va raboter sur les services publics, donc on va vous demander de travailler jusqu'à 65-67 ans, et là, ils auront l'impression de se faire avoir et on ne les embarquera pas. Et ce qui m'inquiète, c'est dans le discours d'Emmanuel Macron, la promesse de ne pas augmenter les impôts. D'abord, ça ne relève pas d'un discours de président de la République, ça relève du gouvernement, de l'Assemblée, etc., qui vont décider. Et ça, c'est un message qui dit quoi ? Qui dit « nous n'augmenterons pas les impôts des plus riches ». Donc, immédiatement, on crée du soupçon. Je crois, au contraire, qu'il faut mettre...
Quel soupçon ?
L'idée que c'est sur les services publics, le régalien, qu'on va raboter pour permettre de payer l'effort de guerre.
David, la notion d'union sacrée, elle est complexe. Et surtout, quand la menace, aussi proche soit-elle dans les esprits, elle n'est pas proche pour les citoyens, j'imagine.
Moi, j'aime pas beaucoup les analogies historiques, mais je suis quand même frappé quand on regarde différentes périodes de l'histoire de voir à quel point et l'extrême gauche et l'extrême droite fournissent toujours des bataillons de pacifistes, de défaitistes et d'accommodeurs. C'est-à-dire de gens qui disent cette guerre, c'est pas la nôtre, on va pas mourir pour les Poldev, comme on disait dans les années 30. J'entendais hier Florian Philippot qui disait on va pas mourir pour les Ukrainiens. D'abord, il s'agit pas de mourir, on va pas aller sur le front ukrainien, mais il faut être lucide sur la réalité de cette menace russe. Ces gens-là ne sont pas nos amis. Ces gens-là, ils veulent mettre l'Europe en coupe réglée et ils veulent attenter à la souveraineté des nations européennes. Donc c'est un intérêt vital de la France, à la fois de tenir la ligne de front ukrainienne, de soutenir en tout cas l'Ukraine, qui tient la ligne de front face à la Russie, et ensuite effectivement de nous réorganiser sur le plan de la défense pour avoir une défense et une capacité militaire européenne digne de ce nom. Simplement attention à la pensée magique. Parce que moi, je veux bien qu'on ait 3%, 4%, j'ai même entendu 5% du PIB consacré à la défense. Je veux bien qu'on ait 4 ou 5% du PIB consacré à l'énergie et au climat, puisqu'il va quand même falloir faire la transition écologique. Je sais que ça n'intéresse plus personne en ce moment, mais c'est aussi un enjeu existentiel, c'est un enjeu vital. Hein. Donc ça fait 7, 8, 9, 10 points de PIB d'investissement supplémentaire à faire dans les prochaines années, qui est assez dingue pour penser que ça peut se faire à un modèle social constant, ouais. C'est-à-dire...
Ou sans augmenter les impôts.
C'est ce que je dis, parce que quand vous augmentez les impôts, vous touchez aussi le contrat social. Donc soit vous augmentez très fortement les impôts, soit vous vous endettez très fortement, mais je crois que là on a un peu atteint le plafond de verre, soit vous modifiez des choses dans le contrat social. En réalité, il faudra faire un peu de tout ça. Mais c'est un peu démagogique de laisser accroire aux gens qu'on va pouvoir investir massivement aussi bien dans la défense que dans le climat et dans l'énergie et dans la technologie. On a annoncé 109 milliards d'investissements dans les data centers. Alors, il y a une part, évidemment, c'est de financement idées, privé.
Ouais. Ouais.
Mais voyez bien, Thomas, que tout ça fait système. L'énergie, la technologie, la défense, ça ne peut plus être pensé séparément. Et les barons de la tech américaine l'ont bien compris, ouais. Qu'ils pensent toutes ces questions ensemble.
Mais David...
Et deuxièmement, juste, je termine sur ça parce que c'est très important, effectivement, sur la défense, il ne faut pas se raconter d'histoire. On va devoir changer de base technologique. Les cycles d'innovation très longs avec les porte-avions, les frégates, c'est important, mais on est dans l'ère aussi de la réaction rapide, des drones, des cyberattaques, de la data, de l'IA. Il y a des boîtes incroyables dans l'IA en défense qui se montent. Il faut intégrer cette innovation-là. Et tous les projets échoués de ces dernières années, comme l'avion franco-allemand auquel Natacha faisait référence, montrent que c'est pas juste des incantations et des promesses d'investissement. Il faut maintenant s'attaquer au modèle opérationnel de cette défense de demain.
En un mot, ça fait 3 ans que la Russie a envahi l'Ukraine. Les carnets de commandes intra-européens d'une boîte comme Thales n'ont toujours pas augmenté. C'est-à-dire que l'État ne commande pas. Les commandes qui viennent sont extra-européennes. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore dans des investissements. Mais si nous voulons que ça marche, il faut embarquer les citoyens. Et pour les embarquer, en effet, il faut redessiner entièrement le fameux contrat social et politique et faire comprendre que ça va être certes des efforts, mais que ces efforts seront justes.
Juste et justifié, écoutez Alain Juppé, l'ancien Premier ministre dans les colonnes du Monde, hier après-midi. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est celui de notre liberté. Vous en parliez à l'instant, Natacha. La liberté, c'est quoi? Ben, on va essayer de définir tout cela avec notre invité. Place au débat du Grand Face-à-Face.
Le Grand Face-à-Face. Thomas Snegaroff sur France Inter.
Bonjour Timothy Snyder.
Bonjour à vous.
Vous êtes l'un des grands historiens de notre temps, vous enseignez l'histoire à l'université de Yale et vous êtes membre permanent de l'Institut des sciences humaines à Vienne. Vous êtes spécialiste de l'Europe centrale et orientale et avez notamment travaillé sur l'Ukraine et sur la Shoah. Depuis quelques années, vous œuvrez à éclairer notre monde actuel et ses crises par votre regard d'historien. C'est le cas lorsque vous inscrivez Vladimir Poutine dans l'histoire longue des totalitarismes ou comme dans votre dernier livre de la liberté chez Gallimard. Vous revenez très personnellement sur ce principe et son usage dans l'Amérique d'aujourd'hui. Et il est vrai que la liberté est brandie de plus en plus par ceux que vous considérez être ses adversaires. Dans votre livre, vous qualifiez Trump de « héros de la liberté négative ». Ça veut dire quoi, la liberté négative, Timothy Snyder ?
Pour lui, il n'y a pas de différence entre la liberté du peuple et sa propre liberté. La liberté négative, c'est quand je ne pense qu'à moi. Et ma liberté, c'est moi contre tous. En fait, pour être libre, il faut avoir une société au sein de laquelle nous créons tous les conditions dans lesquelles nous pouvons devenir libres. Donald Trump est un héros de la liberté négative parce qu'il a hérité de sa fortune. Il peut dire aux gens que la liberté, ça ne concerne que les gens comme lui. Et son administration est en train de détruire le gouvernement.
Alors on va parler du gouvernement, de l'État. Vous revenez beaucoup sur Ronald Reagan, pour qui l'État n'était pas la solution au problème, mais le problème lui-même. Vous dites que ça, déjà, c'était un signe de la liberté négative que vous venez de définir avec nous. Mais si on reste dans l'actualité américaine, on parle en ce moment énormément, et chez nous aussi, de free speech. La liberté totale, notamment sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous inscrivez ça? Est-ce que c'est une fausse liberté? Ou est-ce que c'est une vraie liberté que nous ne comprenons pas en Europe parce que nous n'avons pas la même définition que vous?
Je pense que toute définition de liberté doit commencer par l'individu. Lorsque les Américains parlent de liberté d'expression, on a souvent à l'esprit les algorithmes. Et donc, en pratique, nous finissons par défendre la liberté des milliardaires qui possèdent déjà les plateformes de réseaux sociaux. Mais si on commence par la tradition de liberté d'expression, à partir d'Euripide, eh bien, nous nous souvenons que nous avons la liberté d'expression parce que il est physiquement dangereux pour les faibles de dire la vérité aux forts. Donc la liberté d'expression, comme toute autre liberté, doit commencer par les corps vulnérables et la vérité. Et donc si on s'inquiète de la liberté d'expression, nous n'essayons pas simplement de protéger les faibles, nous essayons de créer les conditions dans lesquelles tout le monde peut avoir accès à la vérité. Et si nous y réfléchissons de cette façon-là, à ce moment-là, les gens qui se plaignent de la liberté d'expression comme Donald Trump ou comme Elon Musk seraient les derniers qui seraient inquiétés par cela. Parce qu'ils ont le pouvoir et ils mentent.
La notion de vérité et de liberté, on va les creuser avec, avec David et Natacha. Mais David, allez-y.
Bien, d'abord, je suis très heureux d'échanger avec vous parce que vous, vous faites partie, avec Milan Kundera, des deux personnes qui m'ont vraiment donné envie de m'intéresser à l'Europe centrale. Et Les Terres de Sang est un chef-d'œuvre pour moi. Et vous revenez donc avec ce livre roboratif, où vous faites un pas de côté par rapport à vos recherches d'historien. Vous opposez liberté positive et liberté négative, et ça fait écho à un texte de Benjamin Constant sur la liberté des anciens et la liberté des modernes, dans lequel lui instruit une critique de la liberté qu'on pourrait dire positive des anciens, entendue comme participation constante à la collectivité. Il cite cette oraison funèbre de Périclès où il dit « Les Athéniens sont morts en hommes libres parce qu'ils sont morts pour défendre leur cité ». Ça, c'est vraiment la liberté positive portée à incandescence. Et donc, il y a quand même, je trouve, un intérêt dans la critique de la liberté positive, puisque la liberté négative peut être aussi une réaffirmation de l'individu. Donc, comment est-ce qu'on arrive à conjuguer l'affirmation de l'individu, la liberté individuelle, et en même temps une exigence morale qui fait totalement défaut aujourd'hui aux oligarques de la tech qui se réclament du free speech.
Timothy Snyder.
Negative freedom only
la liberté négative est importante simplement parce qu'il y a une liberté positive. Il est très important que nous ne soyons pas opprimés par les gouvernements ou par qui que ce soit d'autre, y compris les grandes entreprises. Mais la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que nous sommes les créatures que nous sommes. Donc, il n'y a en fait aucune opposition entre liberté négative et liberté positive. La liberté négative, c'est simplement la première étape vers la liberté positive. Lorsque on supprime l'oppression, il y a toujours la question de ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Donc, ma notion de liberté positive n'est pas d'être totalement dévoué à la République. C'est plutôt positif dans le sens que cela réaffirme toutes les bonnes choses possibles. Donc, la liberté positive, c'est les différentes vertus auxquelles nous accordons diverses valeurs. Et comme il s'agit d'une république, la république, c'est la condition au sein de laquelle on peut résoudre nos problèmes de cette manière-là.
Natacha.
Alors justement, vous parlez de république. Il y a finalement deux républiques à vocation universaliste dans le monde, enfin en tout cas deux qui se distinguent par cela, ce sont les États-Unis et la France. Votre livre est absolument, je le dis, absolument splendide, avec un croisement entre des réflexions passionnantes et des destinées individuelles profondément émouvantes. Et on y trouve, tout au long du livre, une réflexion sur la déclaration d'indépendance américaine de Thomas Jefferson et le triptyque « Vie, liberté, poursuite du bonheur ». Et en même temps, dans votre définition de la liberté positive autour de cinq axes, la souveraineté, on va y revenir à tout cela, la factualité ensuite, eh bien, il y a ce moment dans lequel vous écrivez qu'il n'y a pas de choix tragique entre liberté et égalité. Elles vont de pair, les formes de la liberté, toutes les cinq, créent les conditions pour qu'il y ait en pratique moins d'inégalités. Et dans ces cinq éléments qui constituent la liberté, il y a la solidarité. J'y entendais, en fait, le triptyque français. Liberté, égalité, fraternité, en y ajoutant d'ailleurs la phrase de Saint-Just, le bonheur est une chose nouvelle,
une idée neuve
en Europe. Comment voyez-vous justement le dialogue entre ces deux triptyques?
I'm going to start with happiness.
Je vais commencer par le bonheur, parce qu'il me semble que c'est en fait l'élément central, essentiel. Nous pouvons tous être heureux, mais de façon différente, parce que nous donnons de la valeur à des choses différentes. Si moi, je devais devenir ami avec mon interprète, je devrais apprendre les choses qu'il aime. Et c'est ce qui est merveilleux à notre sujet, c'est que ces choses-là sont toujours différentes. Et donc, le bonheur est une clé pour réfléchir à la liberté positive. Parce que on peut traiter du bonheur généralement, mais ça nous force à réfléchir à chaque individu de façon différente. Donc, pour moi, le bonheur nous mène à une notion de liberté positive. La façon dont l'égalité et la fraternité fonctionnent ensemble avec la liberté est aussi positive. Je ne crois pas, comme beaucoup d'Américains le font, qu'il y a véritablement une tension. Pour moi, être libre, je dois écouter à ce que vous dites à mon sujet. Pour moi, être libre, je dois me comprendre. Et je ne peux le faire sans fraternité. Si je ne crois pas que les autres sont mes frères ou mes sœurs, qu'ils sont fondamentalement comme moi, alors je ferai de grandes erreurs sur moi-même. Donc la fraternité, ce n'est pas simplement une forme de gentillesse, c'est aussi une forme d'autocompréhension. Et comme vous l'avez déjà suggéré, c'est semblable à l'égalité. Sans égalité, nous n'avons pas les conditions nécessaires pour être libres. Donc, je ne vois pas la liberté, l'égalité et la fraternité comme trois choses séparées. C'est plutôt que on peut appliquer cette notion française de fraternité et d'égalité pour pouvoir avoir une notion plus riche de liberté.
Et on sent bien à vous écouter que la notion d'empathie est au cœur de la construction même d'une forme de liberté, d'égalité, d'entente et d'écoute. David.
En vous lisant et en vous écoutant à l'instant, je suis frappé de voir à quel point votre réflexion converge avec ce qu'on a appelé les penseurs néo-républicains. G.G.A. Pocock, Quentin Skinner, Philippe Pettit, qui ont fait une tentative théorique de repenser la liberté en critiquant férocement la liberté d'Isaiah Berlin qu'il définissait comme non-interférence, c'est-à-dire l'absence d'obstacle. La liberté, c'est je fais ce que je veux. Donc, un mari violent peut taper sa femme, un oligarque de la tech peut imposer ses vues au monde entier. Et eux parlent de non-domination, c'est-à-dire que il y a une liberté individuelle, l'individu a été désencombré en quelque sorte de la chape de l'État, mais cette liberté individuelle, elle est tempérée par des lois, par des bonnes lois, par des institutions. Comment est-ce que vous vous sentez en sympathie avec ce corpus néo-républicain qui a essayé, dans les années 80, de dessiner une troisième voie entre le marxisme qui appliquait une vision très rousseauiste, très collective de la liberté, et le libéralisme d'Isaiah Berlin qui considère que la liberté, c'est chacun pour soi? Malheureusement, cette voie théorique n'a pas beaucoup prospéré dans l'offre politique. Est-ce que vous vous sentez en sympathie avec cette voie et est-ce que vous pensez que ça pourrait être un corpus intéressant à réactiver aujourd'hui, surtout dans le contexte de ce coup d'État libertarien auquel nous assistons aux États-Unis?
Et je précise que dans votre livre, à la fin, il y a un tableau très précieux dans lequel vous distinguez liberté positive, négative, où par exemple on peut lire la liberté. En liberté positive, c'est la valeur des valeurs. Pour la liberté négative, c'est ce que vous dites, c'est l'absence de barrières. Autre chose, la préposition, la liberté positive dit c'est être libre de, la liberté négative c'est être libéré de. Ça change tout. On est libre de se déplacer, on est libéré des contraintes du déplacement. Allez-y, au passage, répondez à la question de David, si vous voulez bien.
I'm going to answer that question.
Je vais répondre à cette question de trois points de vue différents. Parce que la question comprend beaucoup de points de départ. Tout d'abord, je veux affirmer la pertinence des milliardaires de la technologie. Ils sont véritablement les héros de la liberté négative. Et on peut considérer la condition actuelle des États-Unis comme la conséquence logique du libertarianisme à son extrême. Littéralement, nous avons un énorme milliardaire au centre de notre État, qui le détruit de l'intérieur et en même temps définit ses actions comme des libérations. Ce qui m'amène à Isaiah Berlin et à sa liberté négative. Berlin a écrit un essai, comme vous le savez très bien, dans lequel il fait la différence entre les traditions de liberté négative de la liberté positive. Il lui a été souligné que la liberté négative n'a de sens philosophiquement qu'en tant que condition de la liberté positive. Et il a en fait accepté cette remarque. Et il a abandonné cette distinction. Je suis en sympathie avec la tradition à laquelle vous avez fait allusion. J'ai le luxe, dans ce livre, d'écrire philosophiquement plutôt que historiquement. Donc j'avais plus de liberté que Quentin Skinner et les autres collègues que vous avez cités. Parce qu'en partie, je me repose sur des traditions existantes. Mais à leur différence, je peux apporter de nouveaux arguments. Le troisième point de vue, c'est celui du marxisme. Quand Isaiah Berlin parle de liberté positive, et quand il critique ces dangers, il traite le marxisme comme une liberté positive. Et la critique du marxisme, c'est qu'elle n'assume qu'une bonne chose. Et s'il n'y a seulement qu'une seule bonne chose, à ce moment-là, je peux obliger tout le monde au nom de la liberté pour arriver à ce but unique. Mais je pense que Sir Isaiah avait tort au sujet de la liberté positive. En fait, la liberté positive peut commencer par l'hypothèse que la nature humaine est diverse et nous avons tous des jeux différents de vertus. Et c'est en fait cohérent avec la partie la plus intéressante de la pensée d'Isaiah Berlin, qui est le pluralisme moral.
Natacha.
Vous évoquez donc, je reviens sur les cinq éléments constitutifs qui permettent de comprendre ce qu'est la liberté. Alors, il y en a, ils sont tous extrêmement intéressants. Vous commencez par la souveraineté individuelle, c'est-à-dire la capacité, en fait, qu'un être humain peut avoir à se construire et à préparer sa propre liberté. Ça nécessite, en effet, qu'il soit entouré et qu'il ne soit pas seul. Et derrière, il y en a un qui est magnifique, c'est l'imprévisibilité. C'est-à-dire la possibilité pour un être humain de ne pas se conformer à ce qu'on va attendre de lui, de ne pas être manipulé dans un sens. Or, on voit à quel point, et c'est omniprésent dans votre livre, les réseaux sociaux, les algorithmes, au contraire, luttent contre cette imprévisibilité de l'homme. Et vous citez George Orwell, bien sûr, la manipulation du langage qui permet de nous rendre prévisibles. Mais en vous lisant, j'avais en écho tous les textes d'Anna Arendt sur la crise de la culture et en particulier la destruction du système éducatif aux États-Unis. Et il me semble que, en fait, les réseaux sociaux arrivent sur un terreau qui a déjà fragilisé l'imprévisibilité. Vous citez la baisse terrifiante de la lecture de la presse locale, qui est un élément essentiel d'inscription dans un environnement. Et j'avais un autre texte en tête en vous lisant, c'est Alan Bloom, The Closing of American Mind, qui a été traduit en France sous le titre L'âme des armées, dans lequel il commence en expliquant que la vérité, et cela l'inquiète, ne semble plus être l'objet premier de la recherche universitaire. Est-ce que ces deux textes-là vous semblent rendre compte des phénomènes que vous décrivez.
Timothy Snyder, sur l'éducation et sur la notion de vérité qu'on a commencé à effleurer tout à l'heure.
I want to start by affirming...
Je voudrais commencer par affirmer que l'importance fondamentale de l'imprévisibilité pour mon argument, pour mon argumentation. Pour moi, et ça me place un peu différemment dans l'histoire de la liberté, l'imprévisibilité prend la place de la rationalité. Ce qui est spécial à notre sujet, c'est pas que nous pouvons faire ou avoir des fonctions cognitives fondamentales, mais ce qui est différent pour nous, ce qui est spécial, c'est que, en fait, nous prenons soin de choses, nous pouvons vivre avec des vertus, mais les machines ne peuvent pas le faire. Et c'est la morale, c'est la moralité qui nous rend imprévisibles. Si ce n'est pas pour notre éthique, on est simplement des objets, comme d'autres objets. Et ça nous rend dignes, mais ça nous rend aussi imprévisibles. Parce que le mélange, les combinaisons que nous devons trouver entre différentes vertus, comme la pitié, la cohérence, l'intégrité, la fidélité, l'honnêteté, ces choses sont en confrontation les unes avec les autres en notre sein et elles construisent en nous une imprévisibilité que nous apportons à ce moment-là à l'univers. Mais, comme vous le dites, on ne peut simplement tirer ces vertus que du passé. Nous pouvons les tirer d'autres personnes, nous pouvons les tirer de livres, de l'éducation. Et là, je deviens très conservateur, au sens où je pense que l'éducation doit nous relier à des traditions vivantes qui peuvent passer à travers nous et interpréter de façon différente à l'avenir. Il y a un paradoxe apparent intéressant, c'est que nous avons besoin d'en avoir un accès aux traditions pour réfléchir à l'avenir. Si notre éducation est vide de l'esprit humain, alors à ce moment-là, nous sommes coincés dans le présent. Et c'est une façon de caractériser notre interaction avec la machine qui nous maintient dans un présent permanent, défini par les impulsions, les émotions, plutôt que de nous permettre de réfléchir d'une manière ou d'une autre à notre avenir. Et je dois dire que bien que Simone Weil et Edith Stein sont les philosophes femmes de l'ancien monde, Hannah Arendt est déjà dans la coulisse.
Est-ce que vous allez jusqu'à dire que la liberté, c'est précisément d'être attaché, ce qui est paradoxal, à sa propre histoire?
Je ne pense pas qu'on puisse faire de la liberté sans histoire. Je ne pense pas que la France puisse être une société de gens libres sans l'histoire de France et l'histoire du monde. Je pense que c'est vrai en général. Une république ne peut avoir un avenir que s'il est relié à son passé. Et ça ne signifie pas que nos passés sont parfaits. Ça signifie simplement que le passé fournit le seul voie vers l'avenir. Et il en va de même pour les individus. Comme nous essayons d'imaginer les avenirs individuels, qui ont toujours un composant normatif ou éthique, on ne peut le faire que grâce à des valeurs que nous avons prises de quelque part dans le passé.
Une dernière question, David.
Oui, je voudrais vous poser une question sur la responsabilité après l'imprévisibilité. Il y a une phrase de George Bernard Shaw que j'aime beaucoup qui disait « Il n'est pas de liberté sans responsabilité, c'est pourquoi les hommes n'aiment pas tellement la liberté. Ne vivons-nous pas dans des sociétés anonymes à irresponsabilité illimitée, dans lesquelles nous avons perdu le sens de la responsabilité vis-à-vis des plus vulnérables, vis-à-vis du bien commun aussi, on le voit avec le désenchantement démocratique. Et donc cette éducation à la liberté, est-ce que ça ne suppose pas aussi une éducation à la responsabilité ?
Timothy Snyder.
I agree completely.
Je suis tout à fait d'accord. Ce que j'essaie de faire dans ce livre est de traduire ce point logiquement, que nous ne pouvons pas parler de liberté, pas du tout, sans parler de diverses formes de responsabilité. La liberté, pour moi, n'a pas de sens rationnel, logique, à moins que nous soyons capables de réfléchir à une situation générale où la liberté est possible. Ce n'est pas simplement une question d'accepter avec Kant que nous sommes tous des créatures égales. C'est aussi un point pratique. Si nous ne sommes pas capables de créer les conditions de la liberté, alors à ce moment-là, nous ne serons pas libres. Et c'est aussi un point important. La liberté est difficile. Et je n'essaie pas de le cacher. Toute personne qui dit que la liberté est simple est probablement très riche et essaie de vous exploiter.
J'ai une dernière petite question parce que ce livre est très personnel. Il y a beaucoup de vos voyages, de vos voyages en train, de vos voyages d'études. Vous racontez notamment l'Ukraine aujourd'hui. Et vous allez dans des villages ukrainiens qui ont été libérés de la présence de l'armée russe. Et vous dites ce mot « libéré » pose un problème. Ils ont été libérés, mais ils ne sont pas libres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la nuance entre les deux ?
En ukrainien, il y a le mot « déoccupation ». Et « déoccupation », ce n'est pas la même chose que « libération ».
Donc il y a un fossé. Lorsqu'on parle de libérer un territoire, nous imaginons que simplement en enlevant l'armée ennemie, est suffisant. Mais si vous êtes dans un territoire d'où les occupants ou même les meurtriers, les bourreaux ont été enlevés, vous sentez immédiatement que c'est une chose nécessaire, mais pas suffisante. Et la raison pour laquelle vous le ressentez, c'est parce que les gens qui vivent là-bas le rendent de façon très claire. Peu importe la quantité de mal, l'enlever ce mal n'est pas suffisant. Et donc, tout ce mot, libération, tend à nous mener vers une idée de liberté négative qui est très malheureuse. Parce qu'en fait, les situations extrêmes, comme l'élimination d'une armée ennemie, en fait, vous enseignent à quel point il est important que les gens aient accès à des routes, à des autobus, à des trains, à des soins de santé, et toutes les choses qui nous rendent libres, en fait.
Et là, on comprend mieux et bien la différence que vous faites entre liberté négative et positive. Et j'ai une toute dernière question. Vous êtes aussi l'un des grands historiens de la Shoah. Et on a beaucoup commémoré le 80e anniversaire de la libération des camps. Ce mot libération, il fait débat chez les historiens. Comment est-ce que vous, défenseur de la notion de liberté, vous l'entendez ?
I thank you for that question.
Je vous remercie pour cette question. Parce que, vraiment, c'est très bien de poser cette question. Quand les médecins et les infirmiers sont arrivés au camp, ils ont écrit dans leurs mémoires, dans leurs journaux et dans la correspondance avec leurs amis, avec leurs familles, que la libération n'est pas le bon mot. Parce qu'ils avaient compris, précisément parce qu'ils étaient confrontés à ces situations extrêmes, que même éliminer les SS, même en mettant un terme au règne nazi, c'est pas la même chose que la liberté. C'est nécessaire, mais les gens auxquels ils faisaient faire face, aux survivants, avaient besoin de soins, avaient besoin de nourriture, et c'était des gens qui étaient traumatisés pour des années, des décennies. Donc, je n'aime pas lorsqu'on parle de libération des camps. Ça rend les choses beaucoup trop simples. Ça nous mène dans la mauvaise voie.
De la complexité de la notion de liberté et surtout de son caractère dangereux parfois dans son usage. La liberté peut masquer parfois le manque de liberté réelle, de liberté positive. À vous écouter. Merci beaucoup Timothy Snyder de nous avoir éclairé. Votre livre De la liberté est à lire en français chez Gallimard. Le français nous a été offert par Michel Zlotowski que je salue et que j'embrasse. Merci beaucoup Michel d'avoir été avec nous pour la traduction. David et Natacha. Sacha. Merci à tous les deux. Merci aussi à l'équipe du Grand Face à Face. Mathilde Clat à la préparation de l'émission. Marie Merrier pour sa réalisation. Et aujourd'hui, Titouan Labarre était à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France.